Nous fêtons cette année un anniversaire, celui d'une association qui œuvre pour les chrétiens d'Orient.
L'œuvre d'Orient fête en effet cette année son 170e anniversaire. À cette occasion, une messe sera célébrée à Toulouse le 9 mai. Cet anniversaire nous donne aussi l'occasion de prendre des nouvelles des chrétiens d'Orient particulièrement éprouvés en ces temps troublés. Je reçois pour cela Bertrand Perret, délégué à Toulouse et sa région de l'œuvre d'Orient. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors c'est vrai que 170 ans, c'est pas rien quand même hein, pour une association. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions principale de l'œuvre d'Orient?
Alors, l'œuvre d'Orient, donc, comme vous le rappelez, est une très ancienne association française, hein, 170 ans. Elle a été créée pour venir en aide aux communautés chrétiennes orientales, donc initialement celles du Moyen-Orient, de tous les pays du Moyen-Orient, puis par extension aussi les régions où le christianisme est de tradition orientale. On pense notamment à l'Europe de l'Est. On pense aussi à l'Égypte, à des pays de la Corne de l'Afrique comme l'Éthiopie, l'Érythrée, etc. La première mission était, et ça reste toujours la mission centrale, c'est d'aider les chrétiens d'Orient à réaliser leur mission au service de la population dans laquelle ils vivent. Les chrétiens d'Orient, en effet, sont très impliqués dans des missions d'éducation, des congrégations religieuses, mais également des établissements plus larges, plus laïques éventuellement. Donc les religieux au Moyen-Orient sont très impliqués dans la gestion d'écoles, de collèges, de lycées. Et donc ces écoles généralement adressent un enseignement de très grande qualité, font une grande place à la francophonie, et donc on les soutient dans ces missions-là. Par la suite, les missions se sont élargies en direction du domaine du soin, avec la gestion d'hôpitaux, de dispensaires, de centres d'accueil des personnes en situation de handicap. Voilà. En dehors de ça, l'œuvre d'Orient agit aussi dans le domaine patrimonial avec la restauration de bâtiments qui ont pu être détruits à l'occasion de conflits et de guerres, par exemple, et un soutien aussi aux communautés religieuses, par exemple pour la formation des religieux et des religieuses.
Ah oui, donc par exemple, le soutien à un séminaire ou...
Oui.
Ça peut être le cas aussi.
Oui, tout à fait. Alors, ça n'est pas évidemment le volant principal d'action. Le volant principal d'action, c'est véritablement l'éducation et le soin. Ce sont les deux pôles les plus importants. Mais c'est vrai qu'on intervient aussi dans le soutien aux organisations religieuses, aux congrégations, et notamment, par exemple, la formation des séminaristes. Oui,
d'accord.
Tout à fait.
Est-ce que l'œuvre d'Orient intervient aussi en urgence parfois?
Alors, l'œuvre d'Orient, cette action de fond que nous avons rappelée, elle peut être amenée à agir en situation d'urgence, notamment et principalement en raison de conflits ou de guerres, et puis parfois aussi tout simplement pour des raisons de catastrophes naturelles. Hein. Par exemple, en 2023, il y a eu un grand séisme qui a affecté la Syrie, qui a affecté aussi la Turquie, et nous sommes intervenus, bien sûr. Et puis, évidemment, actuellement, nous sommes dans des situations de guerre et de conflits qui font l'actualité. Qu'on pense par exemple au conflit entre l'Iran et Israël, ses répercussions sur le sud Liban, voilà, le conflit en Ukraine évidemment qui dure depuis plus de 4 ans. Et donc nous avons aussi ces interventions, on va dire, de mode humanitaire et plus d'urgence, oui, bien sûr.
D'accord. Comment êtes-vous informé des besoins des chrétiens dans le monde, Bertrand Perret?
Alors... là, on va dire deux choses. La première, c'est qu'il y a des pays où nous avons la chance d'avoir ce que nous appelons un directeur pays, c'est-à-dire une personne ou parfois un couple d'ailleurs, avec autour d'eux une petite équipe qui peuvent recenser les besoins et dont le travail consiste d'ailleurs à aller sur le terrain quotidiennement. Nous avons un directeur pays pour le Liban et la Syrie, qui est basé à Beyrouth. Nous avons un couple qui travaille en Irak. Nous avons un directeur pays en Arménie, par exemple. Donc, un certain nombre de situations, nous avons cette chance-là. Nous en avons actuellement aussi, d'ailleurs. Il y a un couple qui travaille en Terre Sainte, à Jérusalem. Voilà. En dehors de ça, nous avons tout simplement des contacts réguliers avec les demandeurs qui vont formuler des besoins. Il faut dire peut-être aux donateurs qu'on a un processus bien rodé maintenant. On comprend que... En 170 ans, on ait pu acquérir un petit peu de métier. Pour l'instruction des demandes chaque année, elles sont instruites, elles passent devant ensuite le conseil d'administration qui arbitre. Et pour le suivi aussi de ces actions, hein, le suivi très régulier, annuel des actions qui ont été menées et leur bilan.
Oui, voilà. Ça permet d'aider au plus juste.
Exactement.
Et puis de choisir les projets selon...
Voilà, de choisir les projets, de s'assurer de leur suivi, de la bonne utilisation, de la bonne affectation des fonds.
Oui,
voilà.
Bien sûr. Oui, c'est une gestion de bon père de famille, comme on dit.
Voilà.
Vous avez parlé, Bertrand Perret, du Liban. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un seul jour sans l'annonce de combat entre le Hezbollah et Israël. On sait que la situation au sud du Liban est particulièrement inquiétante. Quelle est la situation des chrétiens sur place?
Alors, la situation des chrétiens est celle, finalement, de tous les Libanais concernés, mais c'est vrai que les chrétiens sont très présents au sud du pays aussi, entre autres, et dans d'autres régions évidemment. Et donc, oui, vous savez, petite parenthèse, que le Liban est un, comme dirait le pape Léon, comme il l'a dit il n'y a pas très longtemps, est un pays phare pour le Moyen-Orient. Et le pape, je crois, Jean-Paul II, disait un pays message. En ce sens que le Liban s'est arrangé dans sa constitution pour organiser le dialogue et l'articulation des différentes communautés religieuses, c'est-à-dire la prise en compte de ces confessions et puis leur présence dans les différentes strates du gouvernement et du Parlement. Alors la situation des chrétiens, elle est celle donc que l'on connaît au sud Liban avec le conflit actuel qui oppose le Hezbollah à Israël, avec toute cette zone actuellement qui est un peu neutralisée au sud du Liban et dont Israël veut faire une zone tampon, un certain nombre de localités, je crois qu'on parle de 50 localités qui ont été détruites. Donc c'est vraiment un bilan qui est très lourd, des attaques qui vont même jusque dans les banlieues sud de Beyrouth. Et les chrétiens sont souvent, je le disais, au sud du Liban, aux premières loges. Alors une des réactions de beaucoup de villageois chrétiens et de leurs édiles, les maires en tête, a été dans bien des situations de rester sur place, de vouloir rester sur place, tout simplement parce que je crois qu'ils se disent que c'est leur place et que s'il arrivait qu'ils quittent leur village, eh bien, ils auraient quelques menaces de ne pas le retrouver ensuite. Ensuite, si vous voulez, encore une fois, les chrétiens animent beaucoup d'écoles, beaucoup d'établissements scolaires, et donc... vous aviez un témoignage il y a quelques jours d'une directrice d'établissement dans le journal La Croix, je crois, qui disait qu'il fallait tenir et que son action allait dans deux sens, dans deux directions. La première direction, c'est continuer d'assurer l'enseignement, les cours, et on ne peut pas le faire en présentiel parce que c'est trop dangereux. Et donc, il y a tous les moyens qui se sont développés, singulièrement depuis la pandémie, des cours en distanciel. Donc, il y a toujours cette volonté de... vraiment d'accrocher les jeunes, de maintenir toujours cette présence, cette exigence de maintenir l'enseignement. Et puis les locaux servent beaucoup à finalement héberger des personnes déplacées, des familles déplacées. Ah oui. Les écoles ont vu cette activité se multiplier ces dernières semaines. Rappelons qu'au Liban, depuis le 1er mars, c'est, je crois, 1 million de personnes qui ont été déplacées.
Et donc, vous, en tant qu'association L'Œuvre d'Orient, vous venez en soutien de ces congrégations pour l'éducation et aussi pour accueillir toutes ces personnes déplacées.
Oui. C'est un pôle d'activité important. C'est un pôle d'activité au Liban, aujourd'hui, oui. En Ukraine, depuis 4 ans. Une activité importante de L'Œuvre d'Orient, c'est d'aider à la structuration de centres d'accueil pour les personnes déplacées.
Bien sûr, oui.
Effectivement, c'est un point important. Et c'est vrai que ces écoles-là jouent ce rôle-là. Alors, il faut bien le dire à tout le monde, au bénéfice de l'ensemble de la population. On ne regarde pas qui est chrétien, qui est musulman, etc. Donc, l'action se fait au bénéfice, évidemment, de toutes les populations concernées par ces conflits.
Mmh. Alors, outre le Liban, il y a la situation en Terre Sainte qui est tendue. Quelles sont les nouvelles particulières?
Alors, les nouvelles sont celles, évidemment, que vous entendez régulièrement. On ne va pas parler peut-être des chrétiens dans l'État d'Israël parce que je crois que ce n'est pas le sujet le plus brûlant, même s'il y aurait des choses à dire, bien sûr, mais je crois que les chrétiens dans l'État d'Israël sont en population stable ou très régulièrement en légère augmentation. La situation est très aiguë dans les territoires palestiniens, avec deux situations qui ne sont pas les mêmes. Je crois qu'on va parler très simplement de la Cisjordanie. Alors, ce que nous savons de la Cisjordanie, c'est que depuis le 7 octobre 2023, qui a concerné Gaza, hein, comme on le sait. Mais les répercussions en Cisjordanie sont importantes, puisque comme on le sait, il y a un peu une action un peu, on va dire, débridée, hein, des colons israéliens qui sont établis au voisinage de villages et de petites villes palestiniennes et qui sont dans des stratégies de harcèlement assez régulières, actions régulières de harcèlement qui peuvent concerner donc à la fois des terres, hein, avec la création d'incendies, avec on lâche des troupeaux dans des plantations d'oliviers,
incendies. Le but, c'est de faire partir les chrétiens. Le but, c'est de faire partir les chrétiens. Alors, de la Cisjordanie.
C'est pas spécifiquement, on pourra parler des spécificités qui touchent la population chrétienne, mais ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il y a des, je crois que ça n'est pas du tout prendre parti que de dire qu'il y a effectivement au quotidien, chaque semaine, des faits de harcèlement qui se sont amplifiés en direction des villageois palestiniens. Donc ça, c'est une grande difficulté. Vous citez les chrétiens. Alors les chrétiens, il y a deux difficultés qui leur sont spécifiques dans cette période. La première, c'est que c'est quand même une minorité. C'est quand même une minorité. Et donc ce qui veut dire que les réseaux de solidarité sont peut-être moins volumineux, moins développés que pour leurs voisins musulmans. Et la deuxième chose, c'est que vous avez tout un pan de l'économie des chrétiens qui repose sur les pèlerinages. Les pèlerinages, le tourisme, mais ce tourisme religieux. Et donc, les chrétiens se sont, en Palestine, beaucoup impliqués dans le transport routier, dans l'hôtellerie, dans la fabrication d'objets de piété, dans l'encadrement des pèlerinages, dans le guidage aussi touristique, etc. Et donc, ça fait trois ans que, deux ans et demi, qu'il n'y a plus du tout de pèlerinage, hein, pour le moment. Donc, c'est vraiment une situation qui est très, très difficile. Vous avez en Cisjordanie un village un peu emblématique dont on parle parce que c'est un vieux village biblique, hein, c'est l'ancienne Éphraïm. C'est mentionné par exemple, évidemment, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans l'Évangile de Jean. C'est aujourd'hui le village de Taïbé, qui est presque exclusivement chrétien, avec des orthodoxes et des catholiques, avec des écoles chrétiennes qui vraiment marchent très très bien, qui dispensent un enseignement de très grande qualité, qui rayonne bien au-delà de ce village et de ses alentours. Voilà. Et ce village fait l'objet évidemment régulièrement de tentatives de harcèlement et d'intimidation. Alors l'œuvre d'Orient, et ça n'est pas la seule d'ailleurs, est présente, hein, dans ce village, soutient ses écoles, a développé un atelier de céramique pour offrir des possibilités d'emploi aux jeunes qui souhaitent rester dans le village, a investi dans une vingtaine de logements, enfin des actions vraiment très concrètes pour soutenir ces populations.
Très ponctuel.
Et je crois qu'il faut le faire. La diplomatie aussi s'y active, hein, mais véritablement montrer à ces chrétiens de Cisjordanie qu'on est à leur côté, qu'on ne les abandonne pas et qu'on les soutient dans cette lutte pour rester chez eux.
Oui, c'est ça, en leur trouvant un nouveau travail, puisque les pèlerinages sont arrêtés.
En les aidant effectivement à rester sur leur terre et à y travailler. Et puis ensuite, vous avez la situation très particulière de Gaza. J'engage les auditeurs qui n'ont peut-être pas encore fait d'aller écouter les interviews du père Romanelli. On trouve ça sur plusieurs vidéos, de très belles vidéos sur YouTube, hein, par exemple, et qui vient d'écrire un livre en collaboration avec un journaliste, je crois, qui s'appelle « Les ruines et la lumière », c'est ça. Et la situation à Gaza est absolument incroyable parce qu'il y avait une population chrétienne déjà limitée, hein, forcément, avec une paroisse orthodoxe et une paroisse catholique, qui est la paroisse de la Sainte Famille. Et cette paroisse de la Sainte Famille, elle gère aussi une école, bien sûr, voilà, même trois écoles, je crois qu'elle gère trois écoles, et elle gère un centre d'accueil pour familles, pour personnes handicapées. Et cette paroisse-là, elle a eu des ordres d'évacuation depuis octobre 2023, et elle a toujours dit non.
Et elle reste.
Elle reste là, avec l'argument qu'ils sont là pour s'occuper des populations locales, pour s'occuper des personnes handicapées qui leur ont été confiées et qu'ils ne se voient pas évidemment partir sur les routes dans cette situation.
En tout cas, pardon de vous couper, mais c'est l'heure malheureusement déjà de nous quitter. Bertrand Perret, je vous remercie. Et puis voilà, on reste évidemment à l'écoute de la situation de tous ces chrétiens d'Orient. Donc je rappelle la messe samedi 9 mai à 18h à l'église Saint-Exupère pour fêter les 170 ans de l'œuvre d'Orient. Vous étiez hier à Montauban pour célébrer ce même anniversaire et je vous remercie pour cette attention et ces nouvelles que vous nous avez données ce matin.